Montesquieu, le temple de Cnide. Invocation aux muses. Vierge du Mont-Pierry, entendez-vous le nom que je vous donne? Inspirez-moi. Je cours une longue carrière, je suis accablé de tristesse et d'ennui. Mettez dans mon esprit ce charme et cette douceur que je sentais autrefois et qui fuit loin de moi. Vous n'êtes jamais si divine que quand vous me menez à la sagesse et à la vérité par le plaisir. Mais si vous ne voulez point adoucir la rigueur de mes travaux, cachez le travail même, faites qu'on soit instruit, et que je n'enseigne pas, que je réfléchisse, et que je paraisse sentir, et lorsque j'annoncerai des choses nouvelles, faites qu'on croie que je ne savais rien et que vous m'avez tout dit. Quand les eaux de votre fontaine sortent du rocher que vous aimez, elles me montent point dans les airs pour retomber, elles coulent dans la prairie, elles font des délices parce qu'elles font les délices des bergers. Muse charmante, si vous portez sur moi un seul de vos regards, tout le monde lira mon ouvrage, et ce qui ne saurait être un amusement sera un plaisir. Divine muse, je sens que vous m'inspirez, non pas ce qu'on chante à Tempé sur les chalumeaux, ou ce qu'on répète à Délos sur la lyre. Vous voulez que je parle à la raison. Elle est le plus parfait, le plus noble et le plus exquis de nos sens. Le temple de Cnide. Premier chant. Vénus préfère le séjour de Cnide à celui de Paphos et d'Anatonte. Elle ne descend point de l'Olympe sans venir parmi les Cnidiens. Elle a tellement accoutumé ce peuple heureux à sa vue qu'il ne sent plus cette horreur sacrée qu'inspire la présence des dieux. Quelquefois, elle se couvre d'un nuage et on la reconnaît à l'odeur divine qui sort de ses cheveux parfumés d'ambroisie. La ville est au milieu d'une contrée sur laquelle les dieux ont versé leurs bienfaits à pleine main. On y jouit d'un printemps éternel. La terre, heureusement fertile, y prévient tous les souhaits. Les troupeaux y paissent sans nombre. Les vents semblent n'y régner que pour répandre partout l'esprit des fleurs. Les oiseaux y chantent sans cesse. Vous diriez que les bois sont harmonieux, les ruisseaux murmurent dans les plaines. Une chaleur douce fait tout éclore, l'air ne s'y respire qu'avec la volupté. Auprès de la ville est le palais de Vénus. Vulcain lui-même en a bâti les fondements. Il travailla pour son infidèle quand il voulut lui faire oublier le cruel affront qu'il lui fit devant les dieux. Il me serait impossible de donner une idée des charmes de ce palais. Il n'y a que les grâces qui puissent décrire les choses qu'elles ont faites. L'or, l'azur, les rubis, les diamants y brillent de toutes parts. Mais j'en peins les richesses et non pas les beautés. Les jardins en sont enchantés. Flore et pomone en ont pris soin, leurs nymphes les cultivent. Les fruits y renaissent sous la main qui les cueillit, les fleurs succèdent aux fruits, et quand Vénus s'y promène, entourée de ses gnidiennes, vous diriez que dans leur jeu folâtre, elles vont détruire ces jardins délicieux, mais par une vertu secrète, tout se répare en un instant. Vénus aime avoir les danses naïves des filles de Cnide. Ses nymphes se confondent avec elles. La déesse prend part à leur jeu. Elle se dépouille de sa majesté. Assise au milieu d'elle, elle voit régner dans leur cœur la joie et l'innocence. On découvre de loin une grande prairie, toute parée de l'émail des fleurs. Le berger vient les cueillir avec sa bergère, mais celle qu'elle a trouvée est toujours la plus belle et il croit que Flore l'a faite exprès. Le fleuve Céphée arrose cette prairie et y fait mille détours. Il arrête les bergères fugitives. Il faut qu'elles donnent le tendre baiser qu'elles avaient promis. Lorsque les nymphes approchent de ses bords, ils s'arrêtent et ces flots qui fuyaient trouvent des flots qui ne fuient plus. Mais lorsqu'une d'elles se baigne, il est plus amoureux encore. Ses eaux tournent autour d'elle. Quelquefois, il se soulève pour l'embrasser mieux. Il l'enlève, il fuit, il l'entraîne. Ses compagnes timides commencent à pleurer, mais il la soutient sur ses flots, et, charmé d'un fardeau si cher, il la promène sur sa plaine liquide. Enfin, désespéré de la quitter, il la porte lentement sur le rivage et console ses compagnes. À côté de la prairie est un bois de myrtes dont les routes font mille détours. Les amants y viennent se conter leurs peines. L'amour qui les amuse les conduit par des routes toujours plus secrètes. Non loin de là est un bois antique et sacré où le jour n'entre qu'à peine. Des chênes qui semblent immortels portent au ciel une tête qui se dérobe aux yeux. On y sent une frayeur religieuse. Vous diriez que c'était la demeure des dieux lorsque les hommes n'étaient pas encore sortis de la terre. Quand on a trouvé la lumière du jour, on monte une petite colline sur laquelle est le temple de Vénus. L'univers n'a rien de plus saint ni de plus sacré que ce lieu. Ce fut dans le temps que Vénus vit pour la première fois Adonis. Le poison coula au cœur de la déesse. « Quoi ? » dit-elle, « j'aimerais un mortel. Hélas, je sens que je l'adore. Qu'on ne m'adresse plus de vœux. Il n'y a plus à Cnide d'autre dieu qu'Adonis. » Ce fut dans ce lieu qu'elle appela les amours, lorsque, piquée d'un défi téméraire, elle les consulta. Elle était en doute si elle exposerait nue au regard du berger troyen. Elle cacha sa ceinture sous ses cheveux, ses nymphes la parfumèrent, elle monta sur son char traîné par des cygnes et arriva dans la Phrygie. Le berger balançait entre Junon et Pallas. Il la vit, et ses regards errèrent et moururent. La pomme d'or tombe aux pieds de la déesse. Il voulait parler, et son désordre décida. Ce fut dans ce temple que la jeune Psyché vint avec sa mère. Lorsque l'amour, qui volait autour des lambris dorés, fut surpris lui-même par un de ses regards, il sentit tous les maux qu'il fait souffrir. « C'est ainsi, dit-il, que je blesse. Je ne puis soutenir mon arc ni mes flèches. » Il tomba sur le sein de Psyché. « Ah, dit-il, je commence à sentir que je suis le dieu des plaisirs. » Lorsqu'on entre dans ce temple, on sent dans le cœur un charme secret qu'il est impossible d'exprimer. L'âme est saisie de ces ravissements que les dieux ne sentent eux-mêmes que lorsqu'ils sont dans la demeure céleste. Tout ce que la nature a de riant est joint à tout ce que l'art a pu imaginer de plus noble et de plus digne des dieux. Une main, sans doute immortelle, la partout ornée de peintures qui semblent respirer. On y voit la naissance de Vénus, le ravissement des dieux qui le virent, son embarras de se voir toute nue et cette pudeur qui est la première des grâces. On y voit les amours de Mars et de la déesse. Le peintre a représenté le dieu sur son char, fier et même terrible. La renommée vole autour de lui. La peur et la mort marchent devant ses coursiers couverts d'écume. Il entre dans la mêlée et une poussière épaisse commence à le dérober. D'un autre côté, on le voit couché languissamment sur un lit de rose. Il sourit à Vénus. Vous ne le reconnaissez qu'à quelques traits divins qui restent encore. Les plaisirs font des guirlandes dont il lit les deux amants. Leurs yeux semblent se confondre. Ils soupirent et, attentifs l'un à l'autre, ils se regardent par les amours qui se jouent autour d'eux. Dans un appartement séparé, le peintre a représenté les noces de Vénus et de Vulcain. Toute la cour céleste y est assemblée. Le Dieu paraît moins sombre, moins aussi pensif qu'à l'ordinaire. La déesse regarde d'un air froid la joie commune. Elle lui donne négligemment une main qui semble se dérober. Elle retire de dessus lui les regards qui portent à peine et se tourne du côté des grâces. Dans un autre tableau, on voit Junon qui fait la cérémonie du mariage. Vénus prend la coupe pour jurer à Vulcain une fidélité éternelle. Les dieux sourient et Vulcain l'écoute avec plaisir. De l'autre côté, on voit le dieu impatient qui entraîne sa divine épouse. Elle fait tant de résistance que l'on croirait que c'est la fille de Cérès que Pluton va ravir, si l'œil qui voit Vénus pouvait jamais se tromper. Plus loin de là, on le voit qu'il enlève pour l'emporter sur le lit nuptial. Les dieux suivent en foule. La déesse se débat et veut échapper des bras qui la tiennent. Sa robe fuit ses genoux, la toile vole, mais Vulcain répare ce beau désordre, plus attentif à la cacher qu'ardent à le ravir. Enfin, on le voit qui vient de la poser sur le lit que l'hymen a préparé. Il l'enferme dans les rideaux et il croit l'y tenir pour jamais. La troupe importune se retire. Il est charmé de la voir s'éloigner. Les déesses jouent entre elles, mais les dieux paraissent tristes, et la tristesse de Mars a quelque chose d'aussi sombre que la noire jalousie. Charmé de la magnificence de son temple, la déesse elle-même y a voulu établir son culte. Elle en a réglé les cérémonies, institué les fêtes, et il y est en même temps la divinité et la prêtresse. Le culte qu'on lui rend presque par toute la terre est plutôt une profanation qu'une religion. Elle a des temples où toutes les filles de la ville se prostituent en son honneur et se font une dot des profits de leur dévotion. Elle en a où chaque femme mariée va une fois en sa vie se donner à celui qui l'a choisi et jette dans le sanctuaire l'argent qu'elle a reçu. Il y en a d'autres où les courtisanes de tous les pays, plus honorées que les matrones, vont porter leurs offrandes. Il y en a enfin où les hommes se font eunuques et s'habillent en femmes pour servir dans le sanctuaire, consacrant à la déesse et le sexe qu'ils n'ont plus et celui qu'ils ne peuvent pas avoir. Mais elle a voulu que le peuple de Cnide eût un culte plus pur et lui rendit des honneurs plus dignes d'elle. Là, les sacrifices sont des soupirs et les offrandes un cœur tendre. Chaque amant adresse ses vœux à sa maîtresse et Vénus les reçoit pour elle. Partout où se trouve la beauté, on l'adore comme Vénus même, car la beauté est aussi divine qu'elle. Les cœurs amoureux viennent dans le temple. Ils vont embrasser les autels de la fidélité et de la constance. Ceux qui sont accablés des rigueurs d'une cruelle y viennent soupirer. Ils sentent diminuer leurs tourments. Ils trouvent dans leur cœur la flatteuse espérance. La déesse qui a promis de faire le bonheur des vrais amants le mesure toujours à leur peine. La jalousie est une passion qu'on peut avoir, mais qu'on doit taire. On adore en secret les caprices de sa maîtresse, comme on adore les décrets des dieux, qui deviennent plus justes lorsque l'on ose s'en plaindre. On met au rang des faveurs divines, le feu, les transports de l'amour et la fureur même, car moins on est maître de son cœur, plus il est à la déesse. Ceux qui n'ont point donné leur cœur sont des profanes qui ne peuvent pas entrer dans le temple. Ils adressent de loin leurs vœux à la déesse et lui demandent de les délivrer de cette liberté qui n'est qu'une impuissance de former des désirs. La déesse inspire aux filles de la modestie. Cette qualité charmante donne un nouveau prix à tous les trésors qu'elle cache. mais jamais dans les lieux fortunés, elles n'ont rougi d'une passion sincère, d'un sentiment naïf, d'un aveu tendre. Le cœur fixe toujours lui-même le moment auquel il doit se rendre, mais c'est une profanation de se rendre sans aimer. L'amour est attentif à la félicité des Gnidiens. Il choisit les traits dont il les blesse. Lorsqu'il voit une amande affligée, accablée des rigueurs d'un amant, il prend une flèche trempée dans les eaux du fleuve d'oubli. Quand il voit deux amants qui commencent à s'aimer, il tire sans cesse sur eux de nouveaux traits. Et quand il en voit dont l'amour s'affaiblit, il le fait soudain renaître ou mourir, car il épargne toujours les derniers jours d'une passion languissante. On ne passe point par les dégoûts avant de cesser d'aimer, mais de plus grandes douceurs font oublier les moindres. L'amour a ôté de son carquois les traits cruels dont il blessa Phèdre et Ariane, qui, mêlés d'amour et de haine, servent à montrer sa puissance comme la foudre sert à faire connaître l'empire de Jupiter. À mesure que le dieu donne le plaisir d'aimer, Vénus y joint le bonheur de plaire. Les filles entrent chaque jour dans le sanctuaire pour faire leur prière à Vénus. Elles y expriment des sentiments naïfs comme le cœur qui les fait naître. « Reine d'Amathonte, disait une d'elles, ma flamme pour Tircis est éteinte. Je ne te demande pas de me rendre mon amour. Fais seulement qu'Ixifie le même. » Une autre disait tout bas, « Puissante déesse, donne-moi la force de cacher quelque temps mon amour à mon berger pour augmenter le prix de l'aveu que je veux lui en faire. » Déesse de Cythère, disait une autre, je cherche la solitude. Les jeux de mes compagnes ne me plaisent plus. J'aime peut-être, ah, mais si j'aime quelqu'un, ce ne peut être que Daphnis. Dans les jours de fête, les filles et les jeunes garçons viennent réciter des hymnes en l'honneur de Vénus. Souvent, ils chantent sa gloire en chantant leurs amours. Un jeune Gnidien qui tenait par la main sa maîtresse chantait ainsi. Amour, lorsque tu vis Psyché, tu te blessas sans doute des mêmes traits dont tu viens de blesser mon cœur. Ton bonheur n'était pas différent du mien, car tu sentais mes feux et moi j'ai senti tes plaisirs. J'ai vu tout ce que je décris. J'ai été à Cnide. J'y ai vu Thémire et je l'ai aimé, je l'ai vu encore et je l'ai aimé davantage. Je resterai toute ma vie à Cnide avec elle et je serai le plus heureux des mortels. Nous irons dans le temple et jamais il n'y sera entré un amant si fidèle. Nous irons dans le palais de Vénus et je croirai que c'est le palais de Thémire. J'irai dans la prairie et je cueillerai des fleurs que je mettrai sur son sein, peut-être que je pourrai la conduire dans le bocage où tant de routes vont se confondre. Et quand elle sera égarée, oh, l'amour qui m'inspire me défend de révéler ses mystères. Second chant. Il y a à Gnide un antre sacré que les nymphes habitent où la déesse rend ses oracles. La terre ne mugit point sous les pieds, les cheveux ne se dressent point sur la tête, il n'y a point de prêtresse comme à Delphes où Apollon agite la pitié, mais Vénus elle-même écoute les mortels sans se jouer de leurs espérances ni de leurs craintes. Une coquette de l'île de Crète était venue à Cnide. Elle marchait entourée de tous les jeunes Gnidiens. Elle souriait à l'un, parlait à l'oreille à l'autre, soutenait son bras sur un troisième, criait à deux autres de la suivre. Elle était belle et parée avec art. Le son de sa voix était imposteur comme ses yeux. Ô ciel, que d'alarmes ne causa-t-elle point aux vraies amantes ? Elle se présenta à l'oracle, aussi fière que les déesses. Mais soudain nous entendîmes une voix qui sortait du sanctuaire. « Perfide, comment oses-tu porter tes artifices ? jusque dans les lieux où je règne avec la candeur. Je vais te punir d'une manière cruelle. Je t'ôterai tes charmes et je te laisserai le cœur comme il est. Tu appelleras tous les hommes que tu verras, ils te fuiront comme une ombre plaintive, et tu mourras calmé de refus et de mépris. » Une courtisane de Nocrétis vint ensuite, toute brillante des dépouilles de ses amants. « Va, dit la déesse, tu te trompes si tu crois faire la gloire de mon empire. Ta beauté fait voir qu'il y a des plaisirs, mais elle ne les donne pas. Ton cœur est comme le fer, et quand tu verrais mon fils même, tu ne saurais l'aimer. Va prodiguer tes faveurs aux hommes lâches qui les demandent et qui s'en dégoûtent. Va leur montrer tes charmes, que l'on voit soudain et que l'on perd pour toujours. Tu n'es propre qu'à faire mépriser ma puissance. » Quelque temps après, vint un homme riche qui levait les tribus du roi de Lydie. « Tu me demandes, dit la déesse, une chose que je ne saurais faire, quoique je sois la déesse de l'amour. Tu achètes des beautés pour les aimer, mais tu ne les aimes pas, parce que tu les achètes. Tes trésors ne te seront point inutiles, ils serviront à la dégoûter de tout ce qu'il y a de plus charmant dans la nature. » Un jeune homme de Doride, nommé Aristée, se présenta ensuite. Il avait vu à Gnide la charmante Camille, il en était éperdument amoureux. Il sentait tout l'excès de son amour et il venait demander à Vénus qu'il pût l'aimer davantage. « Je connais ton cœur, lui dit la déesse, tu sais aimer. J'ai trouvé Camille digne de toi, j'aurais pu la donner au plus grand roi du monde, mais les rois la méritent moins que les bergers. » Je parus ensuite avec Thémire, et la déesse me dit, « Il n'y a point dans mon empire de mortel qui me soit plus soumis que toi, mais que veux-tu que je fasse? Je ne saurais te rendre plus amoureux, ni Thémire plus charmante. » « Ah, lui dis-je, grande déesse, j'ai mille grâces à vous demander. Faites que Thémire ne pense qu'à moi, qu'elle ne voit que moi, qu'elle se réveille en songeant à moi, qu'elle craigne de me perdre quand je suis présent, qu'elle m'espère dans mon absence, et que toujours, charmée de me voir, elle regrette encore tous les moments qu'elle a passés sans moi. » Troisième chant. Il y a à Gnide des jeux sacrés qui se renouvellent tous les ans. Les femmes y viennent de toutes parts disputer le prix de la beauté. Là, les bergères sont confondues avec les filles des rois, car la beauté seule y porte les marques de l'Empire. Vénus y préside elle-même. Elle décide sans balancer. Elle sait bien qu'elle est la mortelle heureuse qu'elle a le plus favorisée. Hélène remporta ce prix plusieurs fois. Elle triompha lorsque Thésée l'eut ravie. Elle triompha lorsqu'elle eut été enlevée par le fils de Priam. Elle triompha enfin lorsque les dieux l'eurent rendue à Ménélas après 10 ans d'espérance. Ainsi ce prince, au jugement de Vénus même, se vit aussi heureux époux que Thésée et Paris avaient été heureux amants. Il vint 30 filles de Corinthe dont les cheveux tombaient à grosses boucles sur les épaules. Il en vint 10 de Salamine, qui n'avait encore vu que 13 fois le cours du soleil. Il en vint 15 de l'île de Lesbos, et elles se disaient l'une à l'autre, « Je me sens tout émue. Il n'y a rien de si charmant que vous. Si Vénus vous voit des mêmes yeux que moi, elle vous couronnera au milieu de toutes les beautés de l'univers. » Il vint 50 femmes de Milet. Rien n'approchait de la blancheur de leur teint et de la régularité de leurs traits. Tout faisait voir ou promettait un beau corps, et les dieux qui les formèrent n'avaient rien fait de plus digne d'eux s'ils n'avaient plus cherché à leur donner des perfections que des grâces. Il vint 100 femmes de l'île de Chypre. « Nous avons, disait-elle, passé notre jeunesse dans le temple de Vénus. Nous lui avons consacré notre virginité et notre pudeur même. Nous ne rougissons point de nos charmes. Nos manières, ou quelquefois hardies et toujours libres, doivent nous donner de l'avantage sur une pudeur qui s'alarme sans cesse. » je vis les filles de la superbe Lacédémone. Leur robe était ouverte par les côtés et depuis la ceinture, de la manière la plus immodeste, et cependant, elles faisaient les prudes et souhaitaient qu'elles ne violaient la pudeur que par amour pour la patrie. Mère fameuse, par tant de naufrages, vous savez conserver des dépôts précieux. Vous vous calmâtes lorsque le navire Argo porta la toison d'or sur votre plaine liquide, et lorsque 50 beautés sont parties de Colchos et se sont confiées à vous, vous vous êtes courbée sous elles. Je vis aussi Oriane, semblable aux déesses. Toutes les beautés de Lydie entouraient leur reine. Elle avait envoyé devant elle 100 jeunes filles qui avaient présenté à Vénus une offrande de 200 talents. Candaule était venu lui-même, plus distingué par son amour que par la pourpre royale. Il passait les jours et les nuits à dévorer de ses regards les charmes d'Oriane. Ses yeux erraient sur son beau corps et ses yeux ne se lassaient jamais. Hélas, disait-il, je suis heureux, mais c'est une chose qui n'est su que de Vénus et de moi. Mon bonheur serait plus grand s'il donnait de l'envie. Belle reine, quittez ces vains ornements. Faites tomber cette toile importune. Montrez-vous à l'univers, laissez le prix de la beauté et demandez des autels. Auprès de là étaient 20 babyloniennes. Elles avaient des robes de pourpre brodées d'or. Elles croyaient que leur luxe augmenterait leur prix. Il y en avait qui portaient pour preuve de leur beauté les richesses qu'elles leur avaient fait acquérir. Plus loin, je vis 100 femmes d'Égypte qui avaient les yeux et les cheveux noirs. Leur mari était auprès d'elles et il disait « Les lois nous soumettent à vous en l'honneur d'Isis, mais votre beauté a sur nous un empire plus fort que celui des lois. Nous vous obéissons avec le même plaisir que l'on obéit aux dieux. Nous sommes les plus heureux esclaves de l'univers. » Le devoir vous répond de notre fidélité, mais il n'y a que l'amour qui puisse nous promettre la vôtre. Soyez moins sensibles à la gloire que vous acquérez à Gnide, qu'aux hommages que vous pouvez trouver dans votre maison auprès d'un mari tranquille, qui, pendant que vous vous occupez des affaires du dehors, doit attendre dans le sein de votre famille le cœur que vous lui rapportez. Il vint des femmes de cette ville puissante qui envoie ses vaisseaux au bout de l'univers. Les ornements fatiguaient leurs têtes superbes. Toutes les parties du monde semblaient avoir contribué à leur parure. 10 beautés vinrent des lieux où commence le jour. Elles étaient filles de l'aurore. Et pour la voir, elles se levaient tous les jours avant elles. Elles se plaignaient du soleil qui faisait disparaître leur mère. Elles se plaignaient de leur mère qui ne se montrait à elles que comme au reste des mortels. Je vis, sous une tente, une reine d'un peuple des Indes. Elle était entourée de ses filles, qui déjà faisaient espérer les charmes de leur mère. Des eunuques la servaient, et leurs yeux regardaient la terre, car depuis qu'ils avaient respiré l'air de Gnide, ils avaient senti redoubler leur affreuse mélancolie. Les femmes de Cadix, qui sont aux extrémités de la terre, disputèrent aussi le prix. Il n'y a point de pays dans l'univers où une belle ne reçoive des hommages, mais il n'y a que les plus grands hommages qui puissent apaiser l'ambition d'une belle. Les filles de Gnide parurent ensuite. Belles sans ornements, elles avaient des grâces au lieu de perles et de rubis. On ne voyait sur leur tête que les présents de Flore. Mais ils y étaient plus dignes des embrassements de Zéphyr. Leurs robes n'avaient d'autre mérite que celui de marquer une taille charmante et d'avoir été filées de leurs propres mains. Parmi toutes des beautés, on ne vit point la jeune Camille. Elle avait dit « Bon, je ne veux point disputer le prix de la beauté, il me suffit que mon cher Aristée me trouve belle. » Diane rendait ses jeux célèbres par sa présence. Elle n'y venait point disputer le prix, car les déesses ne se comparent point aux mortels. Je la vis seule, elle était belle comme Vénus. Je la vis auprès de Vénus, elle n'était plus que Diane. Il n'y eut jamais un si grand spectacle. Les peuples étaient séparés des peuples, les yeux erraient de pays en pays, depuis le couchant jusqu'à l'aurore. Il semblait que Cnide fût tout l'univers. Les dieux ont partagé la beauté entre les nations, comme la nature l'a partagée entre les déesses. Là, on voyait la beauté fière de Pallas, ici la grandeur et la majesté de Junon, plus loin, la simplicité de Diane, la délicatesse de Thétis, le charme des grâces et quelquefois le sourire de Vénus. Il semblait que chaque peuple eût une manière particulière d'exprimer sa pudeur et que toutes ces femmes voulussent se jouer les yeux. Les unes découvraient la gorge et cachaient leurs épaules, les autres montraient les épaules et couvraient la gorge. Celle qui vous dérobait le pied vous payait par d'autres charmes, et là, on rougissait de ce qu'ici on appelait bienfaisance. Les dieux sont si charmés de Thémire qu'ils ne la regardent jamais sans sourire de leur ouvrage. De toutes les déesses, il n'y a que Vénus qui la voit avec plaisir et que les dieux ne raillent point d'un peu de jalousie. Comme on remarque une rose au milieu des fleurs qui naissent dans l'herbe, on distingua Thémire de tant de belles. Elles n'eurent pas ce temps d'être ses rivales, elles furent vaincues avant de la craindre. Dès qu'elle parut, Vénus ne regarda qu'elle. Elle appela les grâces. « Allez la couronner !» leur dit-elle. « De toutes les beautés que je vois, c'est la seule qui vous ressemble. » Quatrième chant. Pendant que Thémire était occupée avec ses compagnes au culte de la déesse, j'entrais dans un bois solitaire. J'y trouvai le tendre Aristée. Nous nous étions vus le jour que nous allâmes consulter l'oracle. C'en fut assez pour nous engager à nous entretenir, car Vénus met dans le cœur, en la présence d'un habitant de Gnide, le charme secret que trouvent deux amis lorsqu'après une longue absence, ils sentent dans leurs bras le doux objet de leurs inquiétudes. Ravis l'un de l'autre, nous sentîmes que notre cœur se donnait. Il semblait que la tendre amitié était descendue du ciel pour se placer au milieu de nous. Nous nous racontâmes mille choses de notre vie. Voici à peu près ce que je lui dis. Je suis né à Sybaris, où mon père Antiloque était prêtre de Vénus. On ne met point dans cette ville de différence entre les voluptés et les besoins. On bannit tous les arts qui pourraient troubler un sommeil tranquille. On donne des prix aux dépens du public à ceux qui peuvent découvrir des voluptés nouvelles. Les citoyens ne se souviennent que des bouffons qui les ont divertis et ont perdu la mémoire des magistrats qui les ont gouvernés. On y abuse de la fertilité du terroir qui produit une abondance éternelle, et les faveurs des dieux sur Sybaris ne servent qu'à encourager le luxe et la mollesse. Les hommes sont si efféminés, leur parure est si semblable à celle des femmes, ils composent si bien leur teint, ils se frisent avec tant d'art, ils emploient tant de temps à se corriger à leur miroir, qu'il semble qu'il n'y ait qu'un sexe dans toute la ville. Les femmes se livrent au lieu de se rendre. Chaque jour voit finir les désirs et les espérances de chaque jour. On ne sait ce que c'est que d'aimer et d'être aimé. On est occupé de ce qu'on appelle si faussement jouir. Les faveurs n'y ont que leur réalité propre, et toutes ces circonstances qui les accompagnent si bien, tous ces riens qui sont d'un si grand prix, ces engagements qui paraissent toujours plus grands, ces petites choses qui valent tant, tout ce qui prépare un heureux moment, tant de conquêtes au lieu d'une, tant de jouissances avant la dernière, tout cela est inconnu à Sybaris. Encore, si elles avaient la moindre modestie, cette faible image de la vertu pourrait plaire. Mais non, les yeux sont accoutumés à tout voir et les oreilles à tout entendre. Bien loin que la multiplicité des plaisirs donne aux sybarites plus de délicatesse, ils ne peuvent plus distinguer un sentiment d'avec un sentiment. Ils passent leur vie dans une joie purement extérieure. Ils quittent un plaisir qui leur déplaît pour un plaisir qui leur déplaira encore, et tout ce qu'ils imaginent est un nouveau sujet de dégoût. Leur âme, incapable de sentir les plaisirs, semble n'avoir de délicatesse que pour les peines. Un citoyen fut fatigué toute une nuit d'une rose qui s'était repliée dans son lit. La mollesse a tellement affaibli leur corps qu'ils ne sauraient remuer les moindres fardeaux. Ils peuvent à peine se soutenir sur leurs pieds. Les voitures les plus douces les font évanouir lorsqu'ils sont dans les festins. L'estomac leur manque à tous les instants. Ils passent leur vie sur des sièges renversés, sur lesquels ils sont obligés de se reposer tout le jour, sans s'être fatigués. Ils sont brisés quand ils vont languir ailleurs. Incapables de porter le poids des armes, timides devant leurs concitoyens, lâches devant les étrangers, ils sont des esclaves tout prêts pour le premier maître. Dès que je sus penser, j'eus du dégoût pour la malheureuse Sybaris. J'aime la vertu et j'ai toujours craint les dieux immortels. Non, disais-je, je ne respirerai pas plus longtemps cet air empoisonné. Tous ces esclaves de la mollesse sont faits pour vivre dans leur patrie, et moi pour la quitter. J'allais pour la dernière fois au temple, et m'approchant des autels où mon père avait tant de fois sacrifié, « Grande déesse, dis-je à voix haute, j'abandonne ton temple, et non pas ton culte. En quelque lieu de la terre que je sois, je ferai fumer pour toi de l'encens, mais il sera plus pur que celui qu'on offre à Sybaris. » Je partis et j'arrivai en Crète. Cette île est toute pleine des monuments de la fureur de l'amour. On y voit le taureau d'Airain, ouvrage de Dédale, pour tromper ou pour satisfaire les égarements de Pasiphaé. Le labyrinthe dont l'amour seul sut éluder l'artifice, le tombeau de Phèdre qui étonna le soleil, comme avait fait sa mère, et le temple d'Ariane qui, désolé dans les déserts, abandonné par un ingrat, ne se repentait pas encore de l'avoir suivi. On y voit le palais d'Idoménée, dont le retour ne fut pas plus heureux que celui des autres capitaines grecs, car ceux qui échappèrent au danger d'un élément colère trouvèrent leur maison plus funeste encore. Vénus irritée leur fit embrasser les épouses perfides et ils moururent de la main qu'ils croyaient la plus chère. Je quittais cette ville si odieuse à une déesse qui devait faire quelque jour la félicité de ma vie. Je me rembarquai et la tempête me jeta à Lesbos. C'est encore une île peu chérie de Vénus. Elle a ôté la pudeur du visage des femmes, la faiblesse de leur corps et la timidité de leur âme. Grande Vénus, laisse brûler les femmes de Lesbos d'un feu légitime, épargne à la nature humaine tant d'horreurs. Mytilène est la capitale de Lesbos. C'est la patrie de la tendre Sappho. Immortelle comme les muses, cette fille infortunée brûle d'un feu qu'elle ne peut éteindre. Odieuse à elle-même, trouvant ses ennuis dans ses charmes, elle hait son sexe et le cherche toujours. Comment, dit-elle, une flamme si vaine peut-elle être si cruelle? Amour, tu es 100 fois plus redoutable quand tu te joues que quand tu t'irrites. Enfin, je quittai Lesbos et le sort me fit trouver une île plus profane encore. C'était celle de Lemnos. Vénus n'y a point de temple. Jamais les Lemniens ne lui adressèrent des vœux. Nous rejetons, disent-ils, un culte qui amollit les cœurs. La déesse les en a souvent punis, mais sans expier leurs crimes, ils en portent la peine, toujours plus impies à mesure qu'ils sont plus affligés. Je me remis en mer, cherchant toujours quelque terre chérie des dieux. Les vents me portèrent à Délos. Je restai quelques mois dans cette île sacrée. Mais soit que les dieux nous préviennent toujours sur ce qui nous arrive, soit que notre âme retienne de la divinité, dont elle est émanée quelque faible connaissance de l'avenir, je sentis que mon destin, que mon bonheur même, m'appelait dans un autre pays. Une nuit que j'étais dans cet état tranquille où l'âme, plus à elle-même, semble être délivrée de la chaîne qui la tient assujettie, il m'apparut, je ne sus pas d'abord si c'était une mortelle ou une déesse. Un charme secret était répandu sur toute sa personne. Elle n'était point belle comme Vénus, mais elle était ravissante comme elle. Tous ses traits n'étaient point réguliers, mais ils enchantaient tous ensemble. Vous n'y trouviez point ce qu'on admire, mais ce qui pique. Ses cheveux tombaient négligemment sur ses épaules, mais cette négligence était heureuse. Sa taille était charmante. Elle avait cet air que la nature bonne seule et dont elle cache le secret au peintre même. Elle vit mon étonnement, elle en sourit. Dieu, quel sourit ! Oh, je suis, me dit-elle, d'une voix qui pénétrait le cœur, la seconde des grâces. Vénus, qui m'envoie, veut te rendre heureux, mais il faut que tu ailles l'adorer dans son temple de Gnide. Elle fuit, mes bras la suivirent, mon songe s'envola avec elle, et il ne me reste qu'un doux regret de ne la plus voir, mêlé du plaisir de l'avoir vue. Je quittai donc l'île de Délos et j'arrivai à Gnide. Je puis dire que d'abord je respirai l'amour. Je sentis, je ne puis pas bien exprimer ce que je sentis. Je n'aimais pas encore, mais je cherchais à aimer, et mon cœur s'échauffait comme dans la présence de quelque beauté divine. J'avançais et je vis de loin des jeunes filles qui jouaient dans la prairie. Je fus d'abord entraîné vers elles. Insensé que je suis, disais-je, j'ai sans aimer tous les égarements de l'amour. Mon cœur vole déjà vers des objets inconnus, et ces objets lui donnent de l'inquiétude. J'approchai, je vis la charmante Thémire. Sans doute que nous étions faits l'un pour l'autre. Je ne regardais qu'elle, et je crois que je serais mort de douleur si elle m'avait tourné sur quelque moi quelque regard. « Grande Vénus, m'écriai-je, puisque vous devez me rendre heureux, faites que ce soit avec cette bergère. Je renonce à toutes les autres beautés. Elle seule peut remplir vos promesses et tous les vœux que je ferai jamais. » Cinquième chant. Je parlais encore au jeune Aristée de mes tendres amours. Ils lui firent soupirer les siens. Je soulageai mon cœur en le priant de me les raconter. Voici ce qu'il me dit, je n'oublierai rien, car je suis inspiré par le même Dieu qui le faisait parler. Oh, dans tout ce récit, vous ne trouverez rien que de très simple. Mes aventures ne sont que les sentiments d'un cœur tendre, que mes plaisirs, que mes peines. Et comme mon amour pour Camille fait le bonheur, il fait aussi toute l'histoire de ma vie. Camille est fille d'un des principaux habitants de Cnide. Elle est belle, elle a une physionomie qui va se peindre dans tous les cœurs. Les femmes qui font des souhaits demandent aux dieux les grâces de Camille. Les hommes qui la voient veulent la voir toujours ou craignent de la voir encore. Elle a une taille charmante, un air noble, mais modeste, des yeux vifs et tout prêts à être tendres, des traits faits exprès l'un pour l'autre, les charmes visiblement assortis pour la tyrannie des cœurs. Camille ne cherche point à se parer, mais elle est mieux parée que les autres femmes. Elle a un esprit que la nature refuse presque toujours aux belles. Elle se prête également au sérieux et à l'enjouement. Si vous voulez, elle pensera sensément, et si vous voulez, elle badinera comme les grâces. Plus on a d'esprit, plus on en trouve à Camille. Elle a quelque chose de si naïf qu'il semble qu'elle ne parle que le langage du cœur. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait a les charmes de la simplicité. Vous trouvez toujours une bergère naïve. Des grâces si légères, si fines, si délicates se font remarquer, mais se font encore mieux sentir. Avec tout cela, Camille m'aime. Elle est ravie quand elle me voit, elle est fâchée quand je la quitte, et comme si je pouvais vivre sans elle, elle me fait promettre de revenir. Je lui dis toujours que je l'aime, elle me croit. Je lui dis que je l'adore, elle le sait. Mais elle est ravie, comme si elle ne le savait pas. Quand je lui dis qu'elle fait la félicité de ma vie, elle me dit que je fais le bonheur de la sienne. Enfin, elle m'aime tant qu'elle me ferait presque croire que je suis digne de son amour. Il y avait un mois que je voyais Camille sans oser lui dire que je l'aimais et sans oser presque me le dire à moi-même. Plus je la trouvais aimable, moins j'espérais être celui qui la rendrait sensible. Camille, tes charmes me touchaient, mais il me disait que je ne le méritais pas. Je cherchais partout à t'oublier. Je voulais effacer de mon cœur ton adorable image. Que je suis heureux, je n'ai pas pu y réussir. Cette image y est restée, elle y vivra toujours. Je dis à Camille, j'aimais le bruit du monde et je cherche la solitude. J'avais des vues d'ambition et je ne désire plus que ta présence. Je voulais errer sous des climats reculés et mon cœur n'est plus citoyen que des lieux où tu respires. Tout ce qui n'est point toi s'est évanoui devant mes yeux. Et quand Camille m'a parlé de sa tendresse, elle a encore quelque chose à me dire. Elle croit avoir oublié ce qu'elle m'a juré mille fois. Je suis si charmé de l'entendre que je feins quelquefois de ne pas la croire. Pour qu'elle touche encore mon cœur, et bientôt règne entre nous deux ce doux silence qui est le plus tendre langage des amants. Quand j'ai été absent de Camille, je veux lui rendre compte de ce que j'ai pu voir ou entendre. « De quoi m'entretiens-tu ? » me dit-elle. « Parle-moi de nos amours, ou si tu n'as rien pensé, si tu n'as rien à me dire, cruel, laisse-moi parler. » Et quelquefois, elle me dit en m'embrassant, « Tu es triste. »« Il est vrai, lui dis-je, mais la tristesse des amants est délicieuse. Je sens couler mes larmes, et je ne sais pourquoi, car tu m'aimes. Je n'ai point de sujet de me plaindre, et je me plains, ne me retire point de ta longueur où je suis. Laisse-moi soupirer en même temps mes peines et mes plaisirs. » Dans les transports de l'amour, mon âme est trop agitée. Elle est entraînée vers son bonheur sans en jouir. Au lieu qu'à présent, je goûte ma tristesse même. Ne suis point mes larmes, qu'importe que je pleure puisque je suis heureux. Quelquefois, Camille me dit, aime-moi. Oui, je t'aime, mais comment m'aimes-tu? Hélas, lui dis-je, je t'aime comme je t'aimais. Car je ne puis comparer l'amour que j'ai pour toi que celui que j'ai eu pour toi-même. J'entends louer Camille par tous ceux qui la connaissent. Ses louanges me touchent comme si elles m'étaient personnelles, et j'en suis plus flatté qu'elle-même. Quand il y a quelqu'un avec nous, elle parle avec tant d'esprit que je suis enchanté de ses moindres paroles. Mais j'aimerais encore mieux qu'elle ne dise rien. Quand elle fait des amitiés à quelqu'un, je voudrais être celui à qui elle fait des amitiés. Et quand tout à coup je fais réflexion que je ne serai point aimé d'elle. Prends garde, Camille, aux impostures des amants. Ils te diront qu'ils t'aiment, et ils diront vrai. Ils te diront qu'ils t'aiment autant que moi. Ah, mais je jure par les dieux que je t'aime davantage. Quand je l'aperçois de loin, mon esprit s'égare. Elle approche et mon cœur s'agite. J'arrive auprès d'elle et il semble que mon âme veut me quitter, que cette âme est à Camille et qu'elle va l'énimer. Quelquefois, je veux lui dérober une faveur. Elle me la refuse et dans un instant, elle m'en accorde une autre. Ce n'est pas un artifice. Combattue par sa pudeur et son amour, elle voudrait me tout refuser, elle voudrait pouvoir me tout accorder. Elle me dit, « Mais ne vous suffit-il pas que je vous aime? Que pouvez-vous désirer après mon cœur ?»« Je désire, lui dis-je, que tu fasses pour moi une faute que l'amour fait faire et que le grand amour justifie. » Camille, si je cesse un jour de t'aimer, puisse la parque se tromper et prendre ce jour pour le dernier de mes jours. Puisse-t-elle effacer le reste d'une vie que je trouverai déplorable quand je me souviendrai des plaisirs que j'ai eus en aimant. Aristée soupira et se tut, et je vis bien qu'il ne cessa de parler de Camille que pour penser à elle. Sixième chant. Pendant que nous parlions de nos amours, nous nous égarâmes, et après avoir erré longtemps, nous entrâmes dans une grande prairie. Nous fûmes conduits par un chemin de fleurs au pied d'un rocher d'affreux. Nous vîmes un antre obscur. Nous y entrâmes, croyant que c'était la demeure de quelque mortel. Ô Dieu ! Qui aurait pensé que ce lieu eût été si funeste ? À peine y eus-je mis le pied, que tout mon corps frémit, mes cheveux se dressèrent sur la tête. Une main invisible m'entraînait dans ce fatal séjour. À mesure que mon cœur s'agitait, il cherchait à s'agiter encore. Ainsi, m'écriai-je, ami, entrons plus avant, dussions-nous voir augmenter nos peines. J'avance dans ce lieu où jamais le soleil n'entra, et que les vents n'agitèrent jamais. J'y vis la jalousie. Son aspect était plus sombre que terrible. La pâleur, la tristesse, le silence l'entouraient, et des ennuis volaient autour d'elle. Elle souffla sur nous, elle nous mit la main sur le cœur, elle nous frappa sur la tête, et nous ne vîmes, nous n'imaginâmes plus que des monstres. « Entrez plus avant, nous dit-elle, malheureux mortel, allez trouver une déesse plus puissante que moi. » Nous vîmes une affreuse divinité à la lueur des lampes enflammées des serpents qui sifflaient sur sa tête. C'était la fureur. Elle détacha un de ses serpents et le jeta sur moi. Je voulus le prendre. Déjà, sans que je l'eusse senti, il s'était glissé dans mon cœur. Je restai un moment comme stupide. Mais dès que le poison se fut répandu dans mes veines, je crus être au milieu des enfers. Mon âme fut embrasée, et dans sa violence, tout mon corps la contenait à peine. J'étais si agité qu'il me semblait que je tournais sous le fouet des furies. Nous nous abandonnâmes à nos transports. Nous fîmes 100 fois le tour de cette antre épouvantable et nous allions de la jalousie à la fureur et de la fureur à la jalousie. Nous crions « Thémire !» Nous crions « Camille !» Si Thémire ou Camille était venu, nous l'aurions déchiré de nos propres mains. Enfin, nous trouvâmes la lumière du jour. Elle nous parut importune et nous regrettâmes presque l'autre affreux que nous avions quitté. Nous tombâmes de lassitude et ce repos nous parut insupportable et nos yeux nous refusèrent des larmes et notre cœur ne put plus former de soupirs. Je fus pourtant un moment tranquille. Le sommeil commençait à verser sur moi ses doux pavots. Ô Dieu, ce sommeil même devint cruel. J'y voyais des images plus terribles pour moi que les pâles ombres. Je me réveillais à chaque instant sur une infidélité de Témir. Je la voyais, oh non, je n'ose encore le dire, et ce que j'imaginais seulement pendant la veille, je le trouvais réel dans les horreurs de cet affreux sommeil. Il faudra donc, dis-je en me levant, que je fuie également les ténèbres et la lumière. Témir, la cruelle Témir, m'agite comme les furies. Mais qui l'eût cru que mon bonheur serait de l'oublier pour jamais? Un accès de fureur me reprit. Ami, m'écriai-je, lève-toi. Allons exterminer les troupeaux qui paissent dans cette prairie. Poursuivons ces bergers dont les amours sont si paisibles. Mais non, je vois de loin un temple. C'est peut-être celui de l'amour. Allons le détruire. Allons briser sa statue et lui rendre nos fureurs redoutables. Nous courûmes, et il semblait que l'ardeur de commettre un crime nous donna des forces nouvelles. Nous traversâmes les bois, les prés, les guérets. Nous ne fûmes pas arrêtés un instant. Une colline s'élevait en vain, nous y montâmes. Nous entrâmes dans le temple. Il était consacré à Bacchus. Que la puissance des dieux est grande! Notre fureur fut aussitôt calmée. Nous nous regardâmes et nous vîmes avec surprise le désordre où nous étions. Grand Dieu, m'écriai-je, je te rends moins grâce d'avoir apaisé ma fureur que de m'avoir épargné un grand crime. Et m'approchant de la prêtresse, nous sommes aimés du Dieu que vous servez. Il vient de calmer les transports dont nous étions agités. À peine sommes-nous entrés dans ce lieu que nous avons senti sa faveur présente. Nous voulions lui faire un sacrifice. Daignez l'offrir pour nous, divine prêtresse. J'allais chercher une victime et je la portais à ses pieds. Pendant que la prêtresse se préparait à donner le coup mortel, Aristée prononça ces paroles. Divin Bacchus, tu aimes avoir la joie sur le visage des hommes. Nos plaisirs sont un culte pour toi, et tu ne veux être adoré que par les mortels les plus heureux. Quelquefois, tu égares doucement notre raison, mais quand quelque divinité cruelle nous l'a ôtée, il n'y a que toi qui puisses nous la rendre. La noire jalousie tient l'amour sous son esclavage, mais tu lui ôtes l'empire qu'elle prend sur nos cœurs et tu la fais rentrer dans sa demeure affreuse. Après que le sacrifice fut fait, tout le peuple s'assembla autour de nous. Je racontai à la prêtresse comment nous avions été tourmentés dans la demeure de la jalousie. Et tout à coup, nous entendîmes un grand bruit et un mélange confus de voix et d'instruments de musique. Nous sortîmes du temple et nous vîmes arriver une troupe de bacchantes qui frappaient la terre de leurs tirses, criant à haute voix « Evoe !» Le vieux Silène suivait, monté sur son âne. Sa tête semblait chercher la terre, et sitôt qu'on abandonnait son corps, il se balançait comme par mesure. La troupe avait le visage barbouillé de lie, Pan paraissait ensuite avec sa flûte, et les satyres entouraient leur roi. La joie régnait avec le désordre. Une folie aimable mêlait ensemble les jeux, les railleries, les danses, les chansons. Enfin je vis Bacchus. Il était sur son char, traîné par des tigres, tel que le Gange le vit au bout de l'hiver, portant partout la joie et la victoire. À ses côtés était la belle Ariane, princesse. Vous vous plaignez, princesse, encore de l'infidélité de Thésée, lorsque le dieu prit votre couronne et la plaça dans le ciel. Il essuya vos larmes. Si vous n'aviez pas cessé de pleurer, vous auriez rendu un dieu plus malheureux que vous, qui n'étiez qu'une mortelle. Il vous dit « Aimez-moi ». déesse Thésée fuit. Ne vous souvenez plus de son amour, oubliez jusqu'à sa perfidie. Je vous rends immortel pour vous aimer toujours. Je vis Bacchus descendre de son char, je vis descendre Ariane. Elle entra dans le temple. Aimable Dieu, s'écria-t-elle, restons dans ces lieux et soupirons-y nos amours. Faisons jouir ce doux climat d'une joie éternelle. C'est auprès de ces lieux que la reine des cœurs a posé son empire, que le dieu de la joie règne auprès d'elle et augmente le bonheur de ces peuples déjà si fortunés. Pour moi, grand Dieu, je sens déjà que je t'aime davantage. Quoi ? Tu pourrais quelque jour me paraître encore plus aimable. Il n'y a que les immortels qui puissent aimer à l'excès et aimer toujours davantage. Il n'y a qu'eux qui obtiennent plus qu'ils n'espèrent et qui sont plus bornés quand ils désirent que quand ils jouissent. Tu seras ici mes éternels amours. Dans le ciel, on n'est occupé que de sa gloire. Ce n'est que sur la terre et dans les lieux champêtres que l'on sait aimer. Et pendant que cette troupe se livrera à une joie insensée, ma joie, mes soupirs et mes larmes même te rediront sans cesse mes amours. Le dieu sourit à Ariane. Il la mena dans le sanctuaire. La joie s'empara de nos cœurs. Nous sentîmes une émotion divine. Saisis des égarements de Silène et des transports des Bacchantes, nous prîmes un tirse et nous nous mêlâmes dans les danses et dans les concerts. Septième chant. Nous quittâmes les lieux consacrés à Bacchus, mais bientôt nous crûmes sentir que nos mots n'avaient été que suspendus. Il est vrai que nous n'avions point cette fureur qui nous avait agités, mais la sombre tristesse avait saisi notre âme, et nous étions dévorés de soupçons et d'inquiétudes. Il nous semblait que les cruelles déesses ne nous avaient agités que pour nous faire pressentir des malheurs auxquels nous étions destinés. Quelquefois, nous regrettions le temple de Bacchus. Bientôt, nous étions entraînés vers celui de Gnide. Nous voulions voir Thémis et Camille, ces objets puissants de notre amour et de notre jalousie. Mais nous n'avions aucune de ces douceurs que l'on a coutume de sentir lorsque, sur le point de revoir ce qu'on aime, l'âme est déjà ravie et semble goûter d'avance tout le bonheur qu'elle se promet. Peut-être, dit Aristée, que je trouverai le berger Lycas avec Camille. Que sais-je si je ne lui parle pas dans ce moment ? Ô Dieu ! L'infidèle prend plaisir à l'entendre. On disait l'autre jour, repris-je, que Tircis, qui a tant aimé Thémire, devait arriver à Cnide. Oh, il l'a aimé, sans doute qu'il l'aime encore. Il faudrait que je dispute un cœur que je croyais tout à moi. Un autre jour, Lycas chantait ma Camille. Quand que j'étais insensé, j'étais ravi de l'entendre louer. Moi, je me souviens que Tircis porta à ma Thémire des fleurs nouvelles. Malheureux que je suis, elle les a mises sur son sein. C'est un présent de Tircis, disait-elle. Oh, j'aurais dû les arracher et les fouler à mes pieds. Mais il n'y a pas longtemps que j'allais avec Camille faire à Vénus un sacrifice de deux tourterelles. Elles m'échappèrent et s'envolèrent dans les airs. J'avais écrit sur des arbres mon nom avec celui de Thémire. J'avais écrit mes amours, je les lisais et relisais sans cesse. Un matin, je les trouvais effacés. Camille, ne désespère point, malheureux qui t'aime. L'amour qu'on évite, l'amour qu'on irrite peut avoir tous les effets de la haine. Ah, le premier gnidien qui regarde ma Thémire, je le poursuivrai jusque dans le temple et je le punirai. Fut-il au pied de Vénus. Cependant, nous arrivâmes près de l'antre sacré où la déesse rend ses oracles. Le peuple était comme les flots de la mer agités. Ceux-ci venaient d'entendre, les autres allaient chercher leur réponse. Nous entrâmes dans la foule. Je perdis l'heureux Aristée. Déjà, il avait embrassé sa Camille, et moi, je cherchais encore ma Thémire. Je la trouvai enfin. Je sentis ma jalousie redoubler à sa vue. Je sentis renaître mes premières fureurs. Mais elle me regarda et je devins tranquille. C'est ainsi que les dieux renvoient les furies lorsqu'elles sortent des enfers. « Ô Dieu, me dit-elle, que tu m'as coûté de larmes. Trois fois le soleil a parcouru sa carrière. Je craignais de t'avoir perdu pour jamais. Cette parole me fait trembler. J'ai été consulter l'oracle. Je n'ai point demandé si tu m'aimais. Hélas, je ne voulais que savoir si tu vivais encore. Et Vénus vient de me répondre que tu m'aimes toujours. « Excuse, lui dis-je, un infortuné qui t'aurait haï, si son âme en était capable. Les dieux, dans les mains desquels je suis, peuvent me faire perdre la raison. Ces dieux, Thémire, ne peuvent pas m'ôter mon amour. La cruelle jalousie m'a agité, comme dans le Tartare, on tourmente les ombres criminelles. J'en tire cet avantage, que je sens mieux le bonheur qu'il y a d'être aimé de toi, après la fausse situation où m'a mis la crainte de te perdre. Viens donc avec moi, viens dans ce bois solitaire. Il faut qu'à force d'aimer, j'expie les crimes que j'ai faits. C'est un grand crime, Thémire, de t'avoir cru infidèle. Jamais les bois de l'Élysée que les dieux ont fait exprès pour la tranquillité des ombres qu'ils chérissent, jamais les forêts de Dodone qui parlent aux humains de leur félicité future, ni les jardins des Hespérides dont les arbres se courbent sous le poids de l'or qui compose leurs fruits, ne furent plus charmants que ce bocage enchanté par la présence de Thémire. Je me souviens qu'un satyre qui suivait une nymphe qui fuyait tout éplorée nous vit et s'arrêta. « Heureusement, s'écria-t-il, vos yeux savent s'entendre et se répondre, vos soupirs sont payés par des soupirs. Mais moi, je passe ma vie sur les traces d'une bergère farouche. Malheureux pendant que je la poursuis, plus malheureux encore lorsque je l'ai atteinte. » Une jeune nymphe, seule dans ce bois, nous aperçut et soupira. « Non, dit-elle, ce n'est que pour augmenter mes tourments que le cruel amour me fait voir un amant si tendre. » Nous trouvâmes Apollon assis auprès d'une fontaine. Il avait suivi Diane, qu'un daim timide avait menée dans ses bois. Je le reconnus à ses blonds cheveux et à la troupe immortelle qui était autour de lui. Il accordait sa lyre. Elle attire les rochers, les arbres la suivent, les lions restent immobiles. Mais nous entrâmes plus avant dans les forêts, appelés en vain par cette divine harmonie. Et où croyez-vous que je trouvais l'amour? Je le trouvais sur les lèvres de Thémire. Je le trouvais ensuite sur son sein. Il s'était sauvé à ses pieds. Je l'y trouvais encore. Il se cacha sous ses genoux, je le suivis, et je l'aurais toujours suivi si Thémire, tout en pleurs, Thémire irrité, ne m'eût arrêté. Il était à sa dernière retraite. Elle est si charmante qu'il ne saurait la quitter. C'est ainsi qu'une tendre fauvette que la crainte et l'amour retiennent sur ses petits reste immobile sous la main avide qui s'approche et ne peut consentir à les abandonner. Malheureux que je suis. Thémire écouta mes plaintes, elle n'en fut point attendrie. Elle entendit mes prières, elle devint plus sévère. Enfin, je fus téméraire. Elle s'indigna. Je tremblais. Elle me parut fâchée. Je pleurais. Elle me rebuta. Je tombai et je sentis que mes soupirs allaient être mes derniers soupirs si Thémir n'avait mis la main sur mon cœur et n'y eût rappelé la vie. « Non, dit-elle, je ne suis pas si cruelle que toi, car je n'ai jamais voulu te faire mourir, et tu veux m'entraîner dans la nuit du tombeau. Ouvre ces yeux mourants si tu ne veux que les miens se ferment pour jamais. » Elle m'embrassa. Je reçus ma grâce, hélas, sans espérance de devenir coupable. »